franceinter.fr.
La petite lune de Saturne, Encelade, donc, est l'un des deux corps de notre système solaire où l'hypothèse de la vie est la plus forte. De nouveaux travaux français viennent d'être publiés et ils sont de plus en plus intéressants et excitants.
Un gigantesque panache de vapeur d'eau, de poussière et de cristaux de glace s'échappe de la surface à travers un imposant réseau de fractures, comme s'il y avait une mer sous la surface. Sur Encelade, la vie serait donc possible.
Et la couche de glace qui protège le gigantesque océan d'eau salée d'Encelade est bien plus fine que ce que les chercheurs pensaient. Et c'est vous qui le dites, Gabriel Toby. Bonjour. Allô, allô, Gabriel Toby, vous êtes en ligne avec
nous. Bonjour.
Bonjour, vous êtes planétologue pour le CNRS, au laboratoire de planétologie géodynamique de Nantes. Et puis avec nous dans ce studio, Philippe Hénarejos, le rédacteur en chef du magazine Ciel et Espace. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Pourquoi l'épaisseur de cette couche de glace sur Encelade est-elle importante pour la recherche de la vie, Gabriel Toby?
Alors c'est important, disons la découverte qu'on vient de faire, c'est on a réestimé l'épaisseur de la couche de glace, donc jusqu'à maintenant on pensait que c'était de l'ordre de 30 à 40 km, donc c'est relativement profond. Mm-hmm. Donc la dernière analyse qu'on a faite a montré qu'au final au niveau du pôle sud, là où on a toute l'activité, c'est-à-dire on a ces fameux jets qui sortent des fractures, on pourrait avoir une couche de glace qui ferait que quelques kilomètres. Donc si on compare, c'est à peu près la même épaisseur que la calotte polaire sur Terre, donc... C'est-à-dire que, comme le lac Vostok qu'on peut atteindre par des forages, on peut tout à fait envisager dans un futur qui reste encore très lointain, pouvoir forer jusqu'à cette profondeur.
Et qu'est-ce qui vous a permis d'arriver à cette nouvelle conclusion? On a fait de nouvelles mesures?
Alors, on a utilisé différents jeux de données qui ont été acquis par la mission Cassini. Donc, cette mission, elle est en orbite autour de Saturne depuis 2004 et elle fait des survols réguliers d'Encelade. Et grâce à cette mission, on a pu acquérir des informations sur la topographie d'Encelade. On a également acquis des informations sur son champ de gravité. Et c'est à partir de ces données-là qu'on avait eu la première estimation sur l'épaisseur de la couche de glace, qui nous donnait quelque chose entre 30 et 60 km. Et puis, beaucoup plus récemment, il y a eu une détection d'une modulation de la rotation d'Encelade, donc qu'on appelle une libration. Et à partir de cette libration, on a pu avoir une information sur l'épaisseur moyenne. Donc on s'est rendu compte que l'épaisseur de la couche de glace devait être de l'ordre de 20 à 25 km. Et donc ce qu'on a fait de nouveau dans cette étude, c'est qu'on a concilié ces différents jeux de données pour essayer de déterminer une structure à l'échelle 3D de la couche de glace. Et en essayant de réconcilier ces différents jeux de données, on a montré que l'épaisseur au niveau du pôle sud devait être très très fine afin d'expliquer à la fois la topographie, la gravité et la libration, ce qui nous induit une épaisseur de l'ordre de 3-4 km.
Et ce qui intéresse tout le monde, Philippe Hénarejos, c'est ce qui est sous la glace, c'est cette gigantesque océan d'eau salée.
Oui, parce que pour refaire un petit peu l'historique d'Encelade, quand la sonde Cassini est arrivée autour de Saturne, c'était un peu la surprise. On a d'abord détecté ces fameux panaches, ces geysers. Donc il y a de la des composés qui ensuite ont été analysés. En 2008, on s'est aperçu qu'il y avait pas mal de molécules assez complexes, il y avait du méthane, des choses comme ça. Donc on a découvert un monde glacé. Il faut voir qu'Encelade, c'est une toute petite lune qui fait 500 km de diamètre. Par exemple, la nôtre de lune, elle fait 3400 km de diamètre. Donc c'est un tout petit monde qui a beaucoup de glace. Il y a des roches, mais il y a de la glace, donc il n'est pas très dense. Donc il lui faut une source d'énergie pour avoir de l'eau à l'état liquide sous une calotte globale de glace. Énergie, a priori, d'après ce qu'on pensait jusque-là et ce que confirme cette étude, ça viendrait des forces de marée de Saturne, c'est-à-dire de la force gravitationnelle, l'attraction gravitationnelle de Saturne, qui s'exerce de manière différente sur un côté ou sur l'autre d'Encelade, et ça le tiraille, et ça l'échauffe, et c'est ça qui fait qu'à l'intérieur, il y a de l'énergie et de la chaleur. Et c'est intéressant parce que s'il y a de l'eau à l'état liquide, eh ben on peut se dire que c'est quand même un peu propice à l'apparition de la vie, mais on n'en sait rien pour l'instant.
Gabriel Toby, alors quelles sont pour vous les hypothèses autour de ce système de chauffage, hein, cette chaleur interne extrêmement importante dans ce LAD?
Donc ce qu'on a pu montrer avec cette nouvelle estimation de l'épaisseur de la couche de glace, c'est qu'on peut quantifier la quantité d'énergie à l'intérieur qui est nécessaire pour maintenir cette couche de glace à l'équilibre. Et on s'est rendu compte que c'était encore plus fort que ce qu'on imaginait jusqu'à maintenant. Donc les estimations précédentes étaient basées sur l'observation du pôle sud, où on avait où on a tous ces jets, où on a vu des anomalies thermiques qui nous montraient qu'il y avait de l'ordre de 10-15 gigawatts qui sortaient d'Encelade. Cette nouvelle estimation basée sur la couche de glace nous montre qu'en plus de ces 10-15 gigawatts, il faut encore 20 à 25 gigawatts supplémentaires sur le reste du globe pour pouvoir maintenir l'océan stable. Ce qui veut dire qu'on a une quantité d'énergie qui est énorme pour un objet aussi petit. Mmh. Donc par rapport à la Terre, ça reste modeste, 40 gigawatts, mais pour un objet comme Encelade, c'est plus de 100 fois plus grand que la quantité d'énergie qu'on qu'on pense être stockés à l'intérieur sous forme d'éléments radioactifs. Donc ça montre clairement qu'il y a une autre source de chaleur, et la source la plus probable, c'est le chauffage de marée. Et d'autant plus que là, on montre que le chauffage de marée ne peut se produire, peut être très fort au niveau du pôle sud, mais dans le reste de la couche de glace, c'est quasiment impossible de générer cette chaleur. Mmh. Donc ça indique qu'il y a vraiment une source très profonde, et que ça serait le noyau qui serait à l'origine de cette source de chaleur. Ce qui a encore des implications très importantes, parce que ça suggère que la température dans le noyau où on peut avoir de la circulation d'eau peut être relativement élevée, et donc on pourrait expliquer la formation de sources d'eau chaude à la base de cet océan.
Philippe.
Oui, alors c'est intéressant parce que, vous voyez, en science, il y a des faisceaux d'indices. Je veux dire, il y a eu des mesures, puis d'autres, puis celle-là, qui montre finalement que, en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'on avait eu des mesures de la composition des gaz qui sortaient des geysers, et ces mesures-là tendaient à faire croire qu'il y avait un océan global. À l'époque, on n'en était pas sûr, on passait à des poches d'eau. Et là, vous voyez, avec ces nouvelles études, ça confirme. Donc il y a des faisceaux qui vont resserrer vers cette hypothèse.
Excellent. Comment faire pour savoir, Gabriel Tobis, ce qu'il y a vraiment dans cet océan? On est obligé de creuser pour s'en rendre compte?
Dans cela, justement, c'est comme on l'évoquait au début de l'émission, c'est qu'on a des jets. Donc ces jets de particules de glace et de vapeur nous permettent d'avoir directement accès à la composition de l'océan. Donc ça, c'est déjà ce qui a été obtenu grâce à la mission Cassini qui est passée dans ces jets. Donc on sait qu'il y a des sels, on a une indication sur la composition de ces sels qui sont assez proches de la composition des sels des océans terrestres. Mais si on retourne, donc avec les instruments qui sont sur Cassini, on peut pas déterminer précisément, par exemple, la complexité des molécules et tous les éléments qu'il y a dans cet océan. Par contre, dans le futur, on peut tout à fait envisager une nouvelle mission qui fera des survols dans ce LAD et qui pourra collecter ces grains de glace et ces vapeurs pour mesurer très précisément la composition qui provient dans ce LAD et donc avoir une indication directement sur l'océan. Donc, au-delà même avant même de faire un forage, on aura déjà une indication très précise sur la composition de l'océan. Donc c'est quelque chose d'assez unique dans le système solaire.
Ouais, parce que forer aujourd'hui, ça reste quand même techniquement hyper difficile, même sur Mars, voilà. On le voit.
Même sur Terre.
Ouais, même sur Terre.
Quand on voit pour aller creuser la calotte antarctique, c'est quand même assez compliqué. Donc le faire par une mission automatique sur Encelade, qui est très très loin, c'est encore loin.
Allez, une dernière question.
Oui, Gabriel Tobis, des missions sont prévues. Est-ce qu'on a une date où on peut dire qu'on sera fixé sur Encelade?
Sur la vie, peut-être, dans cette eau salée.
Donc, pour le moment, il y a juste des projets de mission. Donc, il y en a du côté ESA, sur lequel moi je participe, un projet qu'on développe au niveau du laboratoire avec un collègue, Giuseppe Mitri, dont l'objectif sera de partir en 2030. Donc, on n'arrivera pas avant 2037. Donc, c'est encore assez lointain. Par contre, du côté américain, il y a également des projets qui sont en cours de développement, qui devraient partir, s'ils sont sélectionnés plus tôt, donc ça, on serait plutôt vers 2024-2025, avec une arrivée vers 2030 autour d'Encelade. Donc il faut attendre le début des années 2030 pour répondre à cette question.
Il faut être patient, hein, Gabriel Tobis, quand on fait votre métier de planétologue quand même. Hein.
Oui, il faut être patient. Il faut voir que Cassini avait été initiée en 1982 et elle est arrivée en 2004 autour de Saturne.
C'est vrai. Voilà donc des nouvelles d'Encelade, cette petite lune de Saturne. Merci à vous, Gabriel Tobis. Vous étiez en direct de Nantes. Et puis, Philippe Hénarejos, on se retrouve bientôt. À demain, Xalila.
À bientôt, Mathieu.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, des cellules cancéreuses présentes chez les palourdes, les moules et d'autres mollusques et capables d'être transmises entre individus, voire entre espèces. Cette découverte est rapportée dans la revue Nature. Les chercheurs ont constaté que des cellules tumorales présentes chez différentes espèces partagent les mêmes marqueurs génétiques. Il s'agit donc de la même tumeur qui serait passée d'animaux en animaux et il y aurait plusieurs types de cancers qui seraient capables de le faire. Suite des recherches pour comprendre par quel mécanisme les cellules sont transmises justement entre individus. Un robinet dans le ventre pour vidanger son estomac, vous ne rêvez pas. L'agence américaine du médicament a récemment autorisé un dispositif qui permet à un patient de vidanger 30% du contenu de son repas pour l'aider à maigrir. Par une petite opération chirurgicale, un robinet est branché sur le ventre et relié à l'estomac que le patient donc peut ouvrir ou fermer à sa convenance. La FDA estime que ce dispositif permettrait de perdre jusqu'à 20 kilos par an afin de lutter contre l'obésité. Un procédé encadré par des médecins mais qui reste encore très controversé et peu ragoûtant, vous l'admettrez. Et puis après Le Monde de Nemo, Pixar lance son nouveau film Le Monde de Dory qui met en scène un poisson chirurgien et les experts s'inquiètent pour la survie de l'espèce en mer. En effet, après Le Monde de Nemo en 2003, une multitude d'enfants voulaient posséder leur Nemo à la maison et ils ont participé sans le savoir à l'extinction du poisson clown dans certaines régions du monde. Et bien le poisson chirurgien à son tour risque d'être victime de son succès alors qu'il tient un rôle clé dans les écosystèmes coralliens en mangeant les algues qui s'y développent. Par ailleurs, la pêche de cette espèce se fait parfois à l'aide d'une solution au cyanure, un poisson puissant capable de tuer coraux et autres organismes vivants.